Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne, écologie, économie sociale et solidaire, en pays nantais et au-delà.
Mégaphone,
le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Le projet de loi de finances 2025, qui sera voté ce 19 novembre, prévoit de drastiques coupes pour les structures associatives et plus largement pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, aussi appelé ESS. Des baisses d'aides publiques qui peuvent aller jusqu'à 80% pour ce qui est des tiers-lieux. Jet s'est rendu à la chambre régionale de l'ESS sur l'île de Nantes pour échanger avec cette tête de réseau d'un secteur de plus en plus menacé par la direction économique prise par le gouvernement.
Donc je suis Chloé Duret, je suis directrice par intérim de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Pays de la Loire.
Bonjour Chloé, pour commencer il faut poser les bases. Comment est-ce qu'on définit une structure qui appartient à l'ESS ?
Une structure qui appartient à l'économie sociale et solidaire, c'est une organisation qui est d'abord une organisation d'hommes et de femmes qui cherche l'intérêt général ou l'intérêt collectif et non le partage des bénéfices. Ensuite, c'est une organisation dans laquelle les décisions sont prises collectivement et démocratiquement, puisque une personne égale une voix. Et donc, ça peut être une structure sous statut associatif, sous statut coopératif, fondation, mutuelle ou société commerciale d'utilité sociale. En Pays de la Loire, c'est environ 115 000 établissements et 162 000 salariés qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Donc c'est environ 15% des emplois privés qui sont dans l'économie sociale et solidaire en Pays de la Loire, ce qui fait de nous la deuxième région de France en part de l'emploi ESS dans l'emploi total.
La première étant
la Bretagne, nos voisins, où on a une histoire assez commune dans les dynamiques d'économie sociale et solidaire.
Dans son projet de loi de finances 2025, le gouvernement prévoit de baisser les fonds alloués à l'économie sociale et solidaire, aux structures associatives, aux radios associatives, aux tiers-lieux. De quelle envergure est cette baisse et quelles sont ses conséquences ?
Alors en fait, en réalité, il y a trois baisses cumulatives. Il y a une baisse sur certains secteurs, des services d'intérêt général qui voient leur budget diminuer. On peut penser à l'environnement, à la petite enfance, aux radios associatives, bien sûr, mais aussi à la solidarité internationale, au sport, aux tiers-lieux. Donc tout ça, ce sont des politiques publiques de l'État qui voient leur budget baisser. Il y a un deuxième effet qui est la baisse des crédits alloués à l'économie sociale et solidaire au sein de Bercy. Et là, ce sont plutôt les têtes de réseau comme les CRES, mais aussi les dispositifs d'accompagnement comme le dispositif local d'accompagnement, les dispositifs pour les pôles territoriaux de coopération économique, etc., qui vont baisser de 25%. Et enfin, il y a les dotations aux collectivités qui vont baisser. Et on le sait, les collectivités sont les premiers partenaires des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un effet cumulatif de ces trois baisses qui va impacter sensiblement les structures de l'ESS. À la fois les structures en tant que telles qui vont voir leur dotation financière baisser, donc elles vont probablement devoir licencier du personnel, mais en plus en face les dispositifs d'accompagnement pour leur permettre de rebondir, eux aussi vont perdre des moyens et donc pourront moins accompagner ces structures qui probablement seront en difficulté. Donc les baisses en pourcentage, ça va de moins 22% sur le sport à moins 80% sur les tiers-lieux, en passant par moins 44% sur les associations de solidarité internationale, les ONG, ou moins 29% pour les radios associatives, par exemple. Donc il y a vraiment des baisses qui sont très différentes d'un secteur à l'autre, mais elles sont toutes importantes pour ces secteurs-là.
Elles sont toutes impressionnantes, mais il y en a une qui est encore plus impressionnante, celle sur les tiers-lieux. Mmh. Donc 80% de baisse. Mmh. Donc ces tiers-lieux, c'est quoi leur fonction au sein de l'ESS ? Pourquoi une telle baisse ? Comment ça se fait que le gouvernement s'est dit ils vont travailler pareil avec 5 fois moins de moyens ?
Alors les tiers-lieux dépendent de la politique publique dédiée au territoire, au développement des territoires, et non de la politique dédiée à l'ESS. Les tiers-lieux, ce sont des lieux avec une diversité d'activités qui touchent une diversité de publics, des jeunes, des moins jeunes, des actifs, des chercheurs d'emploi, etc. Et qui sont vraiment ancrés sur leur territoire, puisqu'en général, c'est né de la volonté de coopération entre des citoyens et des citoyennes et de la construction de réponses aux besoins du territoire. En Pays de la Loire, on estime à 200 le nombre de tiers-lieux, dont deux tiers relèvent de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est la majorité qui sont sous statut associatif ou coopératif. Ça représente par exemple 4000 bénévoles qui sont dans les tiers-lieux aujourd'hui en Pays de la Loire. Pourquoi l'État a décidé d'arrêter le programme? C'est un programme de financement qui est relativement récent. Ça fait environ 5 ans que l'État finançait les tiers-lieux et avait mis en place des dispositifs appelés fabrique de territoire, manufacture de proximité, etc. Or, il a dû estimer, le législateur, c'était une couche supplémentaire pour venir financer des projets qui concourent au développement du territoire. Nous, ça nous pose vraiment question sur la capacité de ces lieux à maintenir le lien social, puisque ce sont vraiment des espaces de lien social, d'expérimentation, de transmission. Et aujourd'hui, on a très peur que ces lieux ne puissent plus continuer d'exister.
Cette baisse-là, est-ce qu'ils s'attendent à ce que ça fonctionne avec une économie plus privée ou avec des repreneurs? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que ça diminue, qu'il y ait une plus petite part des tiers-lieux? Est-ce que c'est voulu pour vous? C'est quoi?
Je pense qu'ils s'attendent à une autonomisation des modèles économiques des tiers-lieux vis-à-vis des financements publics. Or, on sait que certes, certains tiers-lieux ont une activité marchande en louant des espaces, par exemple, ou en organisant des événements. Mais il y a une mission d'intérêt général qui est celle de l'animation du lien social qui, elle, nécessite des financements publics et pour lequel, clairement, il va y avoir une problématique de modèle économique dans ces tiers-lieux.
Parmi les dispositifs dont il est question dans le projet de loi de finances 2025, il y a le DLA, ou dispositif local d'accompagnement, qui est aussi revu à la baisse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dispositif? Quelles sont ses formes? Et concrètement, quelles conséquences une baisse des DLA aurait sur ce secteur?
Alors, le DLA, c'est un dispositif qui existe depuis 20 ans maintenant, qui est un dispositif qui se décline dans tous les départements et dans toutes les régions de France et qui a vocation à accompagner le développement et la consolidation des structures de l'ESS employeuse. C'est un dispositif pour lequel on fait un diagnostic de la structure, puis un parcours d'accompagnement incluant l'intervention d'un cabinet de conseil pour accompagner la structure sur ces problématiques. Aujourd'hui, en Pays de la Loire, c'est 90% d'associations qui bénéficient du DLA et le reste, ce sont des coopératives ou des sociétés d'utilité sociale. Moins 25%, c'est 50 accompagnements en moins à l'échelle de la région dans l'année. On est aujourd'hui à 200 structures par an qui bénéficient du DLA. Le calcul est rapide, hein, donc on serait plus qu'à 150. Avec une complexité des problématiques à accompagner qui est de plus en plus importante, avec une baisse en phase des financements publics et donc des modèles économiques à complètement repenser dans les structures bénéficiaires du DLA, clairement, on va avoir une problématique que l'offre ne puisse pas répondre à la demande. On va avoir plus de 150 demandes d'accompagnement par an de DLA, mais à l'échelle de l'ensemble des opérateurs des Pays de la Loire, c'est-à-dire France Active, le CAS de Vendée, le CAS de la Sarthe et la CRES et le mouvement associatif au niveau régional, on ne pourra jamais répondre à toutes les demandes qu'on aura si nos moyens, ben, c'est évident.
Et donc la conséquence, par exemple, sur une association, ce serait de passer à côté d'économies à droite, d'une restructuration à gauche qui pourrait potentiellement sauver l'association, potentiellement sur certains cas.
Ouais, on n'est pas sur un dispositif d'urgence dans le cadre du DLA. On est vraiment sur un dispositif qui doit aider la structure à repenser sa stratégie, voire son modèle économique. Mais dans une situation comme on est aujourd'hui, où il y a un revirement nécessaire des modèles économiques, le DLA est un bon outil pour repenser de l'organisation interne, pour repenser le projet stratégique, etc. Donc là, on aura moins de moyens pour moins de bénéficiaires, du coup.
Et donc un DLA, normalement, ça coûte combien à faire? Vous avez combien de personnes qui font appel en temps normal? Vous dites que vous ne répondez pas à toutes les demandes, c'est à quel point?
Alors, un DLA, ça va dépendre de la taille de la structure qui demande, des problématiques qu'elle a à faire accompagner. Mais en moyenne, c'est 4 jours d'intervention d'un prestataire financé par des fonds publics et donc 200 structures qui bénéficient à l'année en Pays de la Loire. avec 25% de moins, ça veut dire soit on garde 4 jours en moyenne et on a 150 seulement bénéficiaires, soit on réduit le temps d'intervention, mais forcément, ce sera moins efficace, moins poussé. Et là, c'est sans compter le travail que font les opérateurs du DELA que nous sommes, qui est tout le travail de diagnostic en amont, de sélection du prestataire et de suivi de l'accompagnement dans la durée.
Donc, en Pays de la Loire, le secteur de l'ESS, vous l'avez dit, représente environ 15% du secteur privé, donc un des territoires les plus actifs, le deuxième après la Bretagne. Donc, pour quelles raisons et quelles particularités ça va conférer au territoire ?
Alors, effectivement, on est la deuxième région où l'ESS pèse le plus lourd dans l'emploi privé. C'est historique, effectivement. Il y a une dynamique très ancienne de coopération dans plein de domaines différents. En réalité, on est avec l'Expoitou-Charente, les territoires de naissance des mutuelles. Et ça, c'est clairement ce qu'on appelait à l'époque les caisses de secours mutuelles. C'est en gros, les gens ont décidé de créer des pots communs pour s'assurer vis-à-vis du risque. Et tout ça, ça va au fil des décennies se structurer progressivement. Et on est un territoire où il y a une dynamique associative très forte, une dynamique coopérative également très forte, et on le voit dans le champ agricole, par exemple, où il y a énormément de CUMA et de coopératives agricoles. Et donc, l'histoire explique beaucoup. Mais il y a aussi le dynamisme actuel, et les politiques publiques, à l'image de celle de Nantes Métropole, qui a une politique publique très forte en faveur de l'économie sociale et solidaire, par exemple, permettent de maintenir un bouillonnement d'initiatives et finalement la poursuite du développement de l'économie sociale et solidaire. Une particularité dans notre région, il y a 79% des communes des Pays de la Loire qui ont au moins un établissement employeur de l'économie sociale et solidaire. Alors qu'au national, on est à 51%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une ESS qui est très ancrée dans les territoires, y compris ruraux, et notamment en Loire-Atlantique, où là, c'est 98% des communes qui ont au moins un établissement employeur de l'ESS. Ces établissements employeurs dans les territoires les plus ruraux, parfois c'est un EHPAD, parfois c'est une école, mais ça peut être aussi une recyclerie, un dernier commerce de proximité, donc une épicerie associative ou un café associatif. Finalement, ça prend plein de formes, mais ça vous prouve à quel point l'ESS, c'est une économie d'abord des territoires. Et c'est une réponse par des citoyens et des citoyennes à un besoin qu'ils ont identifié et auquel ils ont envie de construire une réponse collectivement.
Donc l'UDES, à savoir l'Union des employeurs de l'ESS, au niveau national, estime à environ 186 000 le nombre de futures pertes d'emploi dans le secteur de l'ESS. C'est 186 000, c'est sur quelle échéance ? C'est sur 5 ans ? C'est sur 1 an, 10 ans ?
C'est dès l'année prochaine, dès 2025. C'est la conséquence immédiate des baisses de crédit dans le PLF sur les secteurs d'activité qu'on a cités tout à l'heure, dans le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi finance de la sécurité sociale, puisqu'il y a beaucoup de structures dans le social et le médico-social et la santé, dans l'économie sociale et solidaire. Mais on est bien sur du court terme, donc dès 2025. C'est à peu près 1% de chômage en plus en France.
À échelle régionale, ça représente combien d'emplois à peu près ?
Si on calcule par rapport au poids de l'ESS dans l'échelle nationale, on serait sur un 13 000 emplois dès 2025 en Pays de la Loire qui sont menacés, qui devraient disparaître. Et ça, c'est sans compter à moyen terme les effets des baisses de dotation aux collectivités. On peut estimer que potentiellement, ça va doubler le nombre d'emplois détruits dans l'économie sociale et solidaire à moyen terme, c'est-à-dire à 3 ans à peu près.
Sur justement l'impact social que peut avoir ce genre de mesures, on parle souvent d'emploi. Or, l'ESS, comme son nom l'indique, c'est aussi important dans les parcours de réinsertion, c'est important pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi, et l'impact social global pour vous ?
Il y a l'impact social et l'impact sociétal. L'impact social, c'est que clairement, il y a des structures dans l'insertion par l'activité économique, par exemple, dont les aides ne vont pas évoluer en 2025, alors que le coût de l'emploi, lui, évolue. Ce qui fait que concrètement, ils ne vont plus pouvoir salarier autant de personnes en insertion qu'ils ne le faisaient avant, puisque les aides au poste ne s'alignent pas. Mais surtout, l'impact sociétal, et pour moi, il est très important, c'est qu'en fait, ce sont des services à la population, des pans de services à la population qui vont disparaître dans les territoires. C'est-à-dire qu'une association qui a une forte baisse de ses financements va forcément se questionner sur est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas. Et en l'occurrence, elle peut décider, assez facilement d'arrêter son activité. Et donc, le service à la population qui existait va disparaître par la même. C'est une de nos grosses craintes dans les deux prochaines années, c'est que, et notamment dans les territoires les plus fragiles, ces services disparaissent et qu'on s'éloigne encore plus des publics, et notamment les publics les plus précaires.
Mégaphone !
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire, en pays nantais et au-delà.
Mégaphone !
Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Pensée locale vous emmène cette semaine au nord-est de Nantes, dans le quartier de la Bottière, où a déménagé il y a un an la boutique solidaire Joujou. Créée en 2020, cet espace de valorisation et de vente de jouets de seconde main est porté par l'association d'insertion Atao. On vous propose une visite guidée de cette boutique atelier en compagnie de Valentin Tual, adjoint de production chez Joujou. Donc là, on est à l'entrée de la boutique. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous ?
Alors, dans la boutique, on a tout ce qu'on propose en termes de catégorie de jouets. Donc, c'est tout ce qu'à la base, on nous donne. Donc, nous, on ne fonctionne que sur des dons, soit des collectes en entreprise, soit des dons de particuliers directement en boutique. Tous ces jouets-là sont valorisés et puis à la fin, ils arrivent ici. Donc là, on est dans la boutique. C'est le lieu où on retrouve tous nos produits finis, donc qui ont été nettoyés, testés, recomposés. Et réemballer si besoin. On a du jouet premier âge, que ce soit du jouet doudou, après on part sur du jouet en bois, du jouet plus plastique coloré, des fois à pile, des jouets électroniques, beaucoup de peluches. On a aussi tout ce qui est Playmobil ou Lego, là en marque vraiment, qu'on essaye de recomposer aussi au mieux. Toute la partie puzzle, qui fonctionne bien aussi chez nous parce qu'on teste tous les puzzles, donc on vend pas un puzzle si on n'est pas sûr qu'il est complet. Et puis on a une belle partie livre aussi, assez variée avec un peu tout ce qui se fait aussi en livre jeunesse, encore une fois du livre cartonné premier âge jusqu'à la BD et au roman ado.
On peut se balader ouais. Un petit peu.
Pensée locale, un enjeu de société.
Donc là, on est où ?
Là, on est dans la partie atelier et stockage. Donc, c'est ici que tout se déroule, toute l'activité de notre atelier de réemploi. Le cycle d'un jouet ici, c'est déjà la collecte, le fait qu'il arrive chez nous. Après, il va être traité, donc on va trier ce qu'il y a dans les cartons. Et puis après, la chaîne continue avec la grosse partie, c'est la valorisation. Donc c'est à ce moment-là qu'on va intervenir sur le jouet plus précisément, avec la partie recomposition, nettoyage, vérification quand c'est un jouet électronique. Ça, c'est la partie qui est la plus longue parce que c'est là qu'on va passer du temps sur chaque jouet.
Ces missions, elles sont menées à bien par 12 salariés en insertion, des personnes isolées et éloignées de l'emploi qui rejoignent la structure pendant 6 mois à 2 ans, encadrées par 2 salariés permanents. Ce jour-là, 6 d'entre eux sont présents, chacun affairé à reconstituer et à valoriser un jouet ou un jeu. Parmi eux, Nafissa, face à un puzzle en cours d'assemblage.
Ça, c'est pour savoir si le puzzle il est complet et... Alors, je suis là pour le compléter.
Vous avez combien de jeux par jour qui passent entre vos mains ?
Ça dépend parce qu'il y a des jeux qui sont un peu compliqués pour le faire. Alors, il faut qu'on le fasse. Et si on ne sait pas, il faut demander à nos encadrants, à Valentin, pour nous aider, ou aux collègues. Ça fait 2 mois que je suis là. Et là, c'est bien parce que là, quand même, on arrive à développer des compétences qu'on n'en avait pas, des compétences que moi je ne savais pas du tout à faire.
Et là, ça s'annonce bien, il a l'air complet le jeu ?
Je suis en train de le faire. Je ne sais pas exactement s'il est complet ou pas, mais...
On verra.
Oui, c'est suspense.
Après vient la dernière étape, qui est l'étape du prix. On essaie de calculer via le prix du marché, parfois via le coût de l'occasion aussi. On essaie de coller au plus près... pour rester à des prix attractifs. Puis après, bah, on a tout notre espace de stockage de jouets qui est prêt à vendre. Okay. Donc ça peut partir soit à la boutique, c'est quand même la principale sortie. Après, ça peut aussi aller sur des commandes publiques. Et voilà, mais le gros, le principal, ça va être quand même la boutique qui est ici et qui est ouverte 4 jours par semaine, bientôt 5 avec les samedis à Noël.
La boutique Joujou, jouets solidaires et de seconde main, est une alternative bienvenue en ce début de période de surconsommation de fêtes de fin d'année. Elle ouvre ses portes au 43 rue de la Bottière à Nantes du mardi au vendredi et le samedi donc à partir du 9 novembre et ce jusqu'à Noël.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Sun.